donc passer la parole à Fatia sur justement ce qu'ils font à l'URACA.
Alors, comme je disais tout à l'heure, on a une consultation ethnopsie à URACA, mais aussi un dispositif de médiation ethnoclinique qui permet de prendre en compte les représentations culturelles. En introduction, je parlais des multiples traumas que les personnes pouvaient vivre dans le parcours migratoire, mais à cela s'ajoute le traumatisme lié à l'annonce de la maladie, puisque tout s'effondre lorsque la maladie est prononcée, lorsque le résultat est arrivé, ou même lorsque la maladie est visible sur un examen, comme une radio, un scanner ou autre. Et face à cette annonce, c'est tout l'univers du patient qui s'effondre. Le comment peut s'expliquer assez facilement. C'est-à-dire qu'on peut, même par une traduction simple, expliquer comment on peut être contaminé par une maladie sexuellement transmissible, par exemple. Le diabète, comment aujourd'hui on peut... qu'est-ce qui fait qu'on va avoir le diabète? La question de l'insuline, etc. Parfois, ça peut suffire pour certains patients, pour après s'inscrire dans les démarches de soins, prendre ses traitements, aller à ses rendez-vous, etc. Mais parfois, non. Parfois, non, parce que cette annonce qui arrive un peu comme un éclair, je dirais, dans un ciel bleu, quelque part, vraiment de manière traumatique, violente. La personne ne s'y attendait pas.
Un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ça s'appelle en clinique. Oui. Chez les vieux, on appelle ça un coup de tonnerre dans un ciel serein.
Exactement. Je ne sais pas ce que j'ai dit quoi.
Un éclair.
Un éclair, ah oui.
Mais, cliniquement, ça a une existence,
oui,
c'est
oui.
Un symptôme.
Oui, oui, tout à fait. ça va plonger en tout cas le patient dans d'énormes difficultés. La première, c'est de comprendre justement pourquoi moi, pourquoi maintenant. C'est là où on parle d'un concept en anthropologie qui est la double causalité. Avec, peut-être vous en avez déjà entendu parler, la cause naturelle, avec le diagnostic, et la cause surnaturelle.
Ils vont avoir cet après-midi un cours d'anthropologie, d'anthropologie.
Très bien. Sur les causes surnaturelles, on va avoir plusieurs choses. On va avoir, par exemple, les représentations liées au champ religieux. C'est la volonté de Dieu. Voilà. Et puis parfois, ça va être un peu plus compliqué, parce qu'il va y avoir aussi des croyances au-delà du religieux qui parfois est en surface. Quand on creuse un peu, on va avoir les racines plus liées à l'animisme. L'animisme, avec la question de la transgression, peut-être une action malveillante, un acte de sorcellerie, un mauvais sort qui est jeté. Alors ça peut être compliqué, certaines équipes peuvent être très mal à l'aise face à ça, parce que... comment on peut démontrer scientifiquement qu'il n'y a pas de sort dans cette histoire? C'est compliqué. C'est pour ça que certains patients, parfois, sont observants, vont au rendez-vous, prennent leur traitement, mais ne vont pas bien. Et c'est là où on se pose la question de qu'est-ce que l'on peut faire. Ça me semble important d'avoir un espace adapté pour explorer ces représentations-là, auquel cas la souffrance augmente et la vulnérabilité psychique s'accroît aussi. Dans les représentations, on va pouvoir, dans le cadre de la consultation ethnopsie, pour présenter en quelques minutes, on est vraiment dans un cadre groupal. C'est-à-dire qu'on va avoir la médiatrice qui, elle, va avoir une position médiane. Elle nous permet d'aller d'un monde à l'autre. Parce qu'elle connaît la culture du patient, mais elle connaît la culture ici aussi. Elle va pouvoir nous éclairer sur le discours du patient, celui qui parle de sorcellerie. Qu'est-ce que veut dire la sorcellerie dans sa culture? À quoi ça se réfère? Ça permet aussi de mieux comprendre et de distinguer ce qui est normal ou pathologique. Car quand on écoute le discours du patient, si on met de côté tout l'aspect culturel, parfois on pourrait même penser qu'il est persécuté. Il se sent persécuté. Est-il paranoïaque? En général, quand on va sur cet aspect culturel, on arrive à éclairer la souffrance du patient et comprendre ce qui se passe en réalité. Et souvent, on va retrouver des choses communes, notamment la culpabilité et la honte. On est venu ici avec un projet bien défini, on n'est pas venu peut-être pour avoir une vie affective. Peut-être que ce n'était pas du tout l'idée du groupe. Honte aussi par rapport à certaines pathologies qui vont être stigmatisantes. Comme le VIH, on en a parlé un petit peu ce matin, ça peut être cause de mort sociale. On va être exclu du groupe, donc on n'existe plus. Quand on vient d'une culture du groupe, l'isolement, bah, plonge la personne dans la dépression. Si on a vu des personnes qui étaient dans des lieux de vie éloignés, qui n'étaient plus en lien avec les membres de leur communauté, ne parlaient plus leur langue, étaient complètement déracinées et qui ont sombré aussi dans la dépression. Sachant que là encore, la dépression peut aussi s'exprimer avec l'aspect culturel.
Dans... Oui. Excusez-moi, par exemple.
Pour la dépression ?
Oui, les expressions de la dépression.
Ah, bah, je vous donne un exemple chez moi. Moi, je suis originaire du Maroc. Quelqu'un qui est dépressif, en tout cas dans ma région, la symptomatologie correspond à la possession. Donc, quelqu'un qui va s'isoler, qui n'a plus de plaisir à être avec les autres, est seul, est triste, et il n'est pas comme d'habitude. Et donc, on va dire qu'il est habité par un être culturel. Pourtant, on parle de la même chose, mais on nomme différemment.
Au Botswana, c'est la Rurutuku. J'ai mal à la route. Et j'ai mal à la route, ah oui, c'est quoi ? Le premier patient qui m'a dit, il y a 4, c'est la Rurutuku, j'étais... Et jusqu'au moment où j'ai compris que c'était avoir enjambé sur sa route de l'urine qu'un sorcier malveillant avait mis en travers. Et voilà. Et ça, donc, c'est la maladie de la route.
Donc. Chez certains subsahariens, c'est le mauvais œil.
Oui.
On dit, la personne est dépressive, elle a eu un mauvais œil, donc il faut la renvoyer au pays, il faut qu'elle voit un marabout, qu'on essaie de lui enlever tout ce malheur. Et ça, c'est... Et
Elisabeth, je ne sais pas si tu te souviens, au Sénégal, « Ah, docteur, j'ai mal dans tout le corps quand le soleil se couche. » Ben oui, mais voilà, j'ai mal dans tout le corps quand le soleil se couche.
Et ça veut dire ?
Dépressif.
D'accord.
Oui. Oui.
On ne nomme pas de la même manière. Mais il est vrai que les patients qu'on accompagne s'inscrivent souvent dans cette double prise en charge. D'un côté médical, et d'ailleurs, lorsque les prises en charge sont clivées, ils vont dire certaines choses aux médecins et pas tout. Parce que ils vont dire autre chose à la personne qui s'occupe d'eux. Donc ça peut être un marabout, ça peut être un guérisseur, ça peut être un voyant, ça peut...
Oui, mais alors, du coup, dans ces cas-là, pour les prendre en charge, c'est difficile parce que dans leur pays d'origine, donc, si on ne dit pas les choses de la même manière, on ne les prend pas en charge non plus de la même manière. Donc c'est difficile d'accepter ici la prise en charge que vous allez leur offrir, par exemple. Ça doit être compliqué.
On part du principe de complémentarité, parce qu'en réalité, on ne soigne pas les mêmes choses. Ici, on est dans une prise en charge médico-psychologique. Donc on va s'occuper du moral, on va s'occuper du corps. Et de l'autre côté, on va être dans une prise en charge plus sociale, parce qu'on va questionner la place de l'individu dans son groupe d'appartenance. On va faire le lien avec un côté, surtout pour les patients qui vont voir des guérisseurs par exemple, le guérisseur ne va pas soigner le diabète par exemple, il ne va pas chercher à soigner le diabète, mais il va soigner la personne dans sa globalité. Et là on a la notion d'âme qui va être prise en compte, ce qui est tout à fait différent. Quand on est sur des prises en charge clivées, le patient ne va pas dire tout à son soignant ici, c'est pour ça que la consultation ethnopsie, on essaye dans la mesure du possible d'avoir un référent qui vient avec le patient. Ça fait le lien vers. Il y a certains symptômes, on ne les voit pas du tout du point de vue médical. Par exemple, si je prends l'exemple du diabète, le diabète, quand il n'est pas équilibré, il va y avoir des atteintes. Très souvent, on dit les yeux, les pieds. C'est souvent là, on va faire attention. Pour les hommes, parfois, il va y avoir l'impuissance. Mais l'impuissance, dans certaines cultures, elle fait écho vers autre chose. Elle va faire écho vers chez moi, par exemple, on dit traf. Traf, c'est quelqu'un à qui on va faire on va sceller, si vous voulez, le sort. Et cette personne ne pourra plus avoir d'activité sexuelle avec sa femme. Parce qu'il y a peut-être une jalousie.
Non, c'est hala.
Hala.
C'est-à-dire, on fait en sorte que l'homme ne puisse pas... Voilà.
Ne peux-je pas honorer, je dirais, son épouse. Oui. Alors, lorsque la personne a ce symptôme-là, elle va aller chercher qui va l'aider. Parce qu'effectivement, un homme qui n'a plus sa force, ce n'est plus un homme. Il perd sa place dans le groupe. Dans certaines cultures, la femme peut exprimer son mécontentement. notamment quand elle va apporter un repas au groupe des hommes, elle peut parfois déposer, selon comment elle présente, elle peut signifier par là un mécontentement vis-à-vis de son homme qui ne l'honore pas. Ce qui fait que sa place dans le groupe peut être menacée. Dans le cadre de la consultation, en faisant ces allers-retours, notamment avec la place de la médiatrice qui a ses connaissances au niveau de la culture ici et de la culture là-bas, ça va aider les soignants à mieux comprendre l'univers culturel du patient et le patient de mieux comprendre, de faire le lien entre sa pathologie et le symptôme qui l'occupe. Ceci dit, ça ne va pas, on ne va pas nous lui interdire d'aller faire des soins. Par contre, on va essayer de négocier dans cet espace, car certains soins traditionnels vont bloquer les médicaments des médecins ici. Je pense par exemple à tout ce qui est plantes. Quand vous avez des plantes à boire, selon qui les a préparées, il y a des principes actifs, donc ça peut entraver l'action du traitement. Et c'est là où on va pouvoir négocier.
Ou la décupler.
Oui, ah oui alors, effectivement. Oui. Il y a des choses à négocier. Et d'ouvrir ce dialogue, ça n'est pas du tout se poser dans... en tout cas, dans notre place à Uraka, on n'a pas la prétention de dire que c'est tel aspect ou tel aspect qui est vrai ou pas. On ne va pas dans cette... À partir du moment où le patient apporte ses éléments culturels, on les accueille et on voit avec lui comment avancer. Dès lors que la parole émerge. Le dispositif en lui-même, il est provisoire. Dès lors qu'il y a du lien avec l'équipe, que le patient refait du lien avec sa culture aussi, il n'a plus besoin de nous. Souvent, les patients qui arrivent à Uraka, ils sont avec une étiologie traditionnelle figée. Justement, la sorcellerie. On ne fait pas d'acte de contre-sorcellerie. On ne fait pas ça. Mais s'il parle de sorcellerie, c'est qu'il y a aussi autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on dit de son mal? Et c'est ça qu'on va explorer. Et dans le groupe d'écothérapeutes, on va avoir des personnes qui viennent d'autres cultures, ce qui pourrait paraître incongru quelque part. Mais en prenant un peu des distances par rapport à la culture du patient, on va aller regarder chez les Bretons en France, il se passe plein de choses.
Les Normands.
On va voir. Ben oui, chez les Bretons, qu'est-ce qu'on dit de la même souffrance? Au Congo, par exemple, qu'est-ce qu'on dit de la même souffrance? Et c'est en prenant cette distance culturelle, en allant questionner tout en étant le patient qui est spectateur de cet échange, c'est lui-même qui, à un moment donné, va rebondir et va nous dire « Mais oui, chez moi, on dit aussi ça. » Et c'est là où, petit à petit, on arrive à opérer un décentrage par rapport à cette première étiologie figée à laquelle il s'accroche et qui souvent va le mettre en échec dans son projet thérapeutique ou même d'insertion. Comment je peux penser à moi puisque je suis coupable d'avoir transgressé vis-à-vis de mon groupe d'origine? Et souvent dans la consultation à Uraka, on va demander au patient en fonction des personnes référentes dans sa famille, de refaire du lien petit à petit vers tel ou tel membre de la famille, sans jamais parler de la maladie, car encore une fois, on ne va pas soigner la maladie, ça c'est le travail des soignants ici, ils le font très bien. Mais on va essayer de réamorcer des liens, petit à petit, avec le groupe d'origine. Et quand ce lien se refait, le soutien moral est inestimable. À nouveau, on a un patient qui devient acteur, il commence à s'exprimer, à dire ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. Il n'est plus dans cette logique fataliste, comme s'il attendait quelque part sa prochaine vie, car celle-ci, elle est terminée, avec l'annonce de la maladie.
Est-ce que j'entends un patient qui est séropositif, qui arrive comme ça. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il ne savait pas ce que c'était que la séropositivité, donc il se fait tout un... Il ne comprend pas, en fait, vers quelle structure on peut les diriger, ces patients, pour qu'ils comprennent déjà le mécanisme de la maladie, ce que c'est. Il n'est pas dans le truc de la sorcellerie, c'est en fait quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'est le VIH. Il sait qu'il faut prendre des traitements, mais il a l'impression que c'est une maladie qui grandit en lui et qui va mourir.
Oui.
Et que du coup... il a eu du mal, on a eu du mal à la mise en place du traitement qu'il ne supportait pas. Il me dit, autant que je me jette du pont, parce que de toute façon, le traitement, je ne peux pas le prendre, donc je vais mourir. C'est compliqué, en fait, l'immunodéficience, ça, il ne comprend pas.
Alors, il y a plusieurs étapes. À Uraka, on a la médiatrice qui, à la fois, intervient dans des groupes pour expliquer, sensibiliser. sur ce qu'est la pathologie, mais elle a aussi des entretiens individuels, où elle va voir avec le patient quelles sont ses difficultés et son degré de compréhension, sachant que c'est une médiatrice interculturelle. Donc il y a ce cadre-là. Il y a l'éducation thérapeutique où, je vous donne un exemple, on a fait un atelier il y a 2 ou 3 semaines avec le jeu CASVIH, peut-être si vous connaissez ce jeu. C'est un jeu avec des questions sur la pathologie. Et il y avait une question sur le nombre de copies de réplication du virus. Et pour une personne qui n'est pas du tout soignée, on pouvait arriver jusqu'à 1 milliard par jour. Et ça avait énormément étonné les participants. Et ça n'avait pas de sens en même temps, parce qu'il est invisible et on le voit dans le sang. Là, dans le côté culturel, ce qui est aussi difficile avec le VIH, c'est que ça fait référence à autre chose, parce que c'est un virus qui est dans le sang. Et dans le sang, il y a aussi cette image, au niveau des étiologies traditionnelles, du sorcier qui envoie la maladie et qui absorbe votre substance vitale. On a le sorcier anthropophage. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous manger, mais il va aspirer toute votre force vitale, vous affaiblir. Et c'est vrai, parce que si vous ne prenez pas vos traitements, la charge virale augmente, vous êtes plus fragile par rapport aux infections, et donc vous vous affaiblissez. Et cette représentation du sang, elle est compliquée aussi. Parfois, dans le soin, vous êtes malade, donc vous allez à l'hôpital vous soigner, mais on n'arrête pas de vous prendre votre sang. On cherche à vous tuer ou à vous soigner. Il y a des représentations parfois comme ça qui peuvent être compliquées. Alors si en plus la personne est persuadée que c'est le sorcier qui a envoyé la maladie, elle est très très vulnérable. Surtout, vous avez certainement tous reçu dans vos boîtes aux lettres le super marabout qui vous promet amour, gloire et beauté. Et certains, à Châteaurouge, c'est connu aussi, certains disent guérir le sida. Donc quand on est avec cette culpabilité extrême, je ne peux pas revenir vers ma famille, ils vont dire que je suis quelqu'un de mauvais, je ne peux pas, il faut que je me débrouille, il faut m'enlever cette maladie. Donc il n'y a même pas la notion de chronicité, il faut me l'enlever. Alors ils vont aller aussi vers ces personnes-là. Et de pouvoir recentrer, de réunir ces deux univers dans la consultation, les confronter, ça va permettre au patient de se recentrer sur lui-même.
De toute façon, ce que vous dites sur le sang, on accueille maintenant dans les centres de dépistage, en particulier des mineurs isolés, donc des gosses qui sont nés en 2000-2001, qui ont 15-16 ans, à qui on fait des bilans à la recherche des hépatites et du VIH. Et avant même le diagnostic d'hépatite, comme on disait, qui tombe là, c'est pas nous puisqu'ils ne connaissent pas l'hépatite, mais surtout on est confronté à ces jeunes qui sont très préoccupés par le nombre de tubes qu'on prélève.
Oui.
On a même envisagé dans mon association de faire des réunions préparatoires avec les jeunes autour de ça, de la santé des tubes de sang. Et vous pouvez détailler cette histoire du sang. En fait, quand on prend du sang, on cherche à affaiblir la personne.
Ben, c'est contradictoire, c'est-à-dire que le sang, c'est la force vitale. Donc si vous allez à l'hôpital pour être soigné, justement dans la dernière recherche action en 2009, il y a un chapitre qui parle de ça et qui reprend la parole des patients. Certains vont dire qu'ils me prennent mon sang pour le vendre. Il y a cette idée de « je n'ai pas confiance, ils me prennent le sang pour le vendre ». Il y a aussi cette représentation du médecin sorcier. C'est-à-dire que par le biais du médecin, il y a derrière le sorcier. C'est-à-dire que c'est même pas le médecin en tant que tel, docteur X ou Y, mais c'est par son biais que le sorcier va agir et va aspirer cette substance vitale. Et certains patients vont être réticents, voire agressifs, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Là, ça ne sera pas forcément la consultation, mais plus une médiation qu'il faudra mettre en place pour lever, je dirais, les freins qui sont présents. Ce qui est compliqué aussi, c'est que pour le VIH, c'est dans le sang qu'on voit le virus. Donc on fait une prise de sang pour évaluer. Et le virus, c'est aussi une entité à part, qui est là, qui grandit. Et à un moment donné, on nous dit même que c'est indétectable. Le terme en lui-même, indétectable, ça veut dire que je suis guérie. Peut-être certains patients qui étaient très observants se sont dit « ça y est, c'est bon ». Et puis finalement, non, le médecin, il dit, il faut continuer à prendre. Et là, lorsque ça n'est pas expliqué au départ sur la maladie chronique, le patient disparaît du soin. Ça peut arriver, on en a eu comme ça, qui disparaissent, repartent au pays, font des traitements. On a même eu un monsieur qui avait des manifestations cutanées, Donc il pensait que c'était bon, la maladie elle sort, et pas du tout, c'était une rechute aussi de la maladie. Et là, il a fallu mettre en place une médiation pour revenir sur maladie chronique. Ça veut dire quoi ?
C'est un complexe devant la partie culturelle d'ailleurs et la partie culturelle ici, parce que ces problématiques-là d'expliquer ce que ça veut dire, on cherchera l'indétectable, on l'a avec on l'a de la même façon, et on sait que voilà, la notion d'intelligibilité elle est complexe pour tous les patients, la notion de maladie chronique, c'est toujours cette difficulté qu'on a à avoir. Parce que vraiment, de toute façon, on est tous de cultures différentes. Ouais. Même dans cette pièce, on a tous des cultures familiales, des cultures différentes.
Ça, on aura l'occasion d'en parler cet après-midi, en début d'après-midi.
Donc, à cela aussi, on peut ajouter le fait qu'au niveau de nos systèmes de santé, des hôpitaux, on ne fait pas toujours de prise de sang, on ne fait pas toujours d'analyse, de telle sorte qu'ils ne sont pas habitués à autant de sang pris en une seule fois. Nous-mêmes, dans notre pratique au niveau des hôpitaux, j'étais tombée sur une personne vivant avec le VIH qui était. Diagnostiqué récemment, et elle était émue devant, face à autant de sang pris, et elle a exprimé effectivement le fait que est-ce que ce ne serait pas la sorcellerie, etc. Et il a fallu lui expliquer le pourquoi de cette prise de sang, et qu'est-ce qu'on veut chercher, etc. Mais il nous a fallu beaucoup de temps pour qu'elle daigne soumettre à cette prise de sang. On peut l'expliquer de manière très simple. Parce que simplement, en dehors de l'aspect mystique, machin, parce que simplement, on n'est pas habitué aux prises de sang. Les analyses sont chères, 90 000 francs, donc ce sont les familles les plus aisées qui peuvent se permettre de faire ces analyses.
On a eu un jeune mineur aussi qui a réussi à bloquer la prise de sang à part le mental. L'infirmière n'arrivait pas, il avait des grosses veines. Il ne voulait pas, il était pas dans l'acceptation effectivement de ce qu'il a. Il a fallu négocier longtemps. Il arrivait à empêcher que le sang arrive. C'est vrai que ça peut aller loin.
L'aiguille était dans la veine et il est.
Au moins il faisait rien. Parce qu'il était musclé. Arriver à serrer
vraiment
les muscles que
ces
égaraux,
je pense que je l'expliquerai comme cela, mais il y a certaines ethnies qui l'expliquent autrement par des choses mystiques. En tout cas, je sais qu'une bonne partie de Maliens disent avoir, je ne sais pas comment dire, avoir des talismans ou je ne sais pas, des prières qui font que personne ne pourra percer le pont et faire sortir le sang. Qu'en est-il ? Je ne saurais vous dire. Mais en tout cas, dans la pratique, même nous, dans le dépistage que nous réalisons, les drogues, hein, j'ai remarqué une bonne proportion et je lui dis, je lui demande, mais vous, pourquoi je n'arrive pas à
avoir la goutte de sang ?
Oui, parce que simplement, je dis, mais pourquoi vous avez fait la démarche ? Sachant que moi, je ne pourrais jamais. C'est lui-même qui a fini par m'aider. Donc, mais ils m'ont dit que c'était parce qu'ils avaient des prières qui font que, en temps de guerre, je ne sais quoi, etc., d'accident. Et le sang ne sera jamais.
Et c'est vrai, j'ai vécu cette situation pour le trode, justement, auprès des Maliens. On n'arrivait pas à avoir une goutte de sang sur un doigt. Et des fois, on utilisait 3 tests et pas une goutte de sang. C'est incroyable, vous ne comprenez pas, donc on laisse la personne partir.
Et
je voulais
ajouter que
moi
je suis infirmière, donc je voulais ajouter. Un jour, je suis confrontée avec des jeunes mineurs, surtout, qui ont très très peur des prises de sang, qui ont très très peur quand ils voient le nombre de tubes. Enfin, c'est vraiment des gens sueurs. Enfin,
vous. Vous parlez de médiation, c'est vrai que nous, on est dans un service de consultation, et on n'a pas forcément le temps de mettre des choses en place. On prend le temps avec ces jeunes-là, on leur explique, on essaie de, on fait des schémas, on leur dit dans ton corps, il y a ton litre, on prend tout ça, parce qu'on essaie de, même d'amener les choses petit à petit, mais on n'a pas le temps de mettre une vraie médiation en place et faire appel à quelqu'un d'autre. Alors parfois, on dit faire la prise de sang, enfin, le médecin est OK pour faire la prise de sang la semaine d'après, que la personne ait le temps de réfléchir, de se poser, etc. Mais quand on est dans un service de consultation, il y a des gens qui, voilà, qui arrivent les uns après les autres, c'est un petit peu, on est un peu freiné par, par le fonctionnement, en fait, notre fonctionnement à nous, qui fait qu'on n'a pas le temps de mettre des choses en place vraiment. Donc la médiation, ça peut être des choses rapides, j'imagine aussi, faire peut-être des petites astuces ou des petits outils.
Bah, sur la médiation, c'est de faire appel à des professionnels extérieurs qui vont intervenir. Après, sur le quotidien des professionnels, j'entends bien la logique, enfin les contraintes hospitalières de temps, effectifs réduits, nombre de patients importants, etc. Ceci dit, en tout cas, à Uraka, on dit que c'est toujours important de perdre un peu de temps pour en gagner beaucoup. Parce qu'un patient qui ne se sent pas à l'aise, n'a pas confiance, c'est un patient qui peut disparaître, qui ne vient plus, et qui va revenir par la porte des urgences. Donc avec un état de santé très précaire. Donc c'est de voir, c'est de re-questionner toute sa pratique. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on intervient dans les staffs pour sensibiliser, amener les professionnels à questionner leur pratique. Et parfois, c'est aussi d'aller dans l'univers du patient. À Uraka, on faisait ces échanges-là. Le dernier, on l'avait fait en 2013, où on avait emmené une équipe de l'hôpital Avicenne en Afrique, voir comment le temps, justement, comment on soigne, le rapport au temps. Quand on dit ici 7 heures, c'est 7 heures, c'est pas 7 heures 1 ou 7 heures 2, où le rapport au temps est totalement différent. La place du patient, sa famille. Parfois, dans les hôpitaux, ça peut gêner quand vous avez 15 personnes qui viennent. Et c'est un balai incessant de passants, etc. Ça désorganise le travail au quotidien, ce que je comprends tout à fait. Mais ça, c'est essentiel pour le patient. Parce que ce n'est pas que sa maladie. Ça concerne tout le groupe.
J'aurais rajouté là-dessus notre slogan actuel de transformer l'hôpital en usine à soins est une aberration. C'est une aberration parce que tout ça, ça demande des maturations, beaucoup de maturation chez la personne. Et on attache beaucoup d'importance à la consultation d'annonce maintenant pour les maladies chroniques. C'est là où les TROD, moi, me posent un vrai problème de fond. Parce que le TROD, c'est un test rapide. Et donc, on n'a pas le temps de maturation entre le moment où on se fait prendre le sang et on se dit que peut-être je suis en danger qu'on trouve du positif et le moment où on annonce. La vraie positivité, on donne du sang, paf, c'est positif. Ah, ça y est, paf, c'est positif. Et alors, quelle est symboliquement la chose qui va arriver? Moi, je l'ai vu au Botswana quand a commencé les tests, et pourtant, c'était plus compliqué. C'est vous qui m'avez donné le sida. C'est vous qui me l'avez passé.
Bien sûr.
Parce que c'est vous qui l'annoncez. Et du coup, je ne veux plus vous voir. Et comme le souligne Fater, c'est des gens qui se disparaissent. Simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de la maturation d'une annonce d'une pathologie grave. On est resté dans notre système d'usine à soins où, pour la T2A, ben, un dépistage, c'est... voilà. Et ça, c'est une aberration. Je ne sais pas combien de temps, ça fait des décennies que ça évolue comme ça, je ne sais pas combien de temps on va aller dans ce sens-là.
Encore les autotests,
ça c'est... Et les autotests, c'est encore pire. Les autotests, c'est encore pire.
Les autotests.
Oui.
Mais,
vous imaginez que quand il fait l'autotest, il s'attend à soit positif.
Il peut suicider, il est tout seul.
Oui, tout à fait.
Mais il a fait la démarche.
Oui, mais
il c'est nous qui devons avoir
l'autotest. Mais il ne s'est pas préparé, à l'annonce négative. Ah non.
Comme les gens qui viennent en dépistage, ça c'est une autre discussion.
Ah non, quand ils viennent en dépistage.
Et moi je pense que là, il y a un décalage entre le temps psychique et le temps matériel. Et là, dans le troc, c'est très net, il y a un décalage complet entre le temps psychique et puis le temps de... en quelques minutes, c'est très.
Et moi, je vois des trottes sur la plage. Des trottes sur la plage.
Et la
il fait beau.
Ils se noient. Ils voient se noyer.
Ou à la sortie du RER aussi.
Voilà, donc ça, justement, les suicides. C'est une très mauvaise idée, les
autotests. On va peut-être passer la parole à Myriam sur les... Les questions de logement, voilà, santé mentale et logement, parce que tout ça, on va le travailler dans l'après-midi. Hein.
Alors, moi, je parlerai toujours des personnes de grands âgés, parce que c'est le public que je vois le plus et auprès de qui j'interviens. Donc, la santé mentale de ces personnes qui se dégradent précocement, vu les conditions déjà du travail, qu'ils ont mené tout au long de leur vie. On sait très bien qu'ils ont tous travaillé dans des chantiers, dans des mines, dans des usines, près des machines qui font beaucoup de nuisances. Et ça engendre plusieurs pathologies. Il y a beaucoup de personnes migrantes qui ont des problèmes d'audition, de surdité, des problèmes d'amiante. C'est-à-dire une maladie professionnelle, de l'hypertension, du diabète. Et donc, toutes ces pathologies affectent le mental de ces personnes. On rajoute à ça les conditions de logement. Alors, un logement défavorable ne permet pas à une personne âgée d'avoir, par exemple, les soins à domicile, d'avoir une aide à domicile. Ils sont dans des petites chambres et il n'y a pas d'intimité. Il y a aussi la problématique des sanitaires qui sont des sanitaires comme dans les foyers de Vitry, c'est à l'extérieur, c'est commun. Et ils ne peuvent pas accepter le fait de